Nous parlons de Philippe Cadic à l'émission de littérature sur Radio Campus Orléans, avec en direct par téléphone Thibaut Eliroff, éditeur au Nouveau Millénaire et J'ai lu. Bonsoir à vous.
Bonjour.
Alors ma première question, c'est sur cet ensemble de publications, de republications des 38 ouvrages de Philippe Cadic. Ça a commencé en février 2012. Parlez-nous un peu de ce programme ambitieux.
En fait, le paradoxe, ou l'un des paradoxes de Philippe Cadic, c'est qu'il a une espèce de notoriété contrariée où tout le monde, ou presque tout le monde, connaît les films qui sont tirés de son œuvre. Je pense à des films comme Blade Runner ou Minority Report ou encore Total Recall. Mais peu de gens savent que c'est tiré de romans et de nouvelles de Philippe Cadic. Pourtant, il a écrit une cinquantaine de romans, pas loin. Et malheureusement, seule une dizaine aujourd'hui est encore publiée. Donc il y a cette de le rendre à nouveau disponible au public. Par ailleurs, le nombre des traductions de ces romans sont aujourd'hui obsolètes ou de piètre qualité et elles demandent un certain rafraîchissement. Nous, notre ambition chez J'ai lu, tout au long de 2012 et 2013, ça va être de remettre en avant tous ces romans, donc en proposant au public la quasi-totalité de ses romans, dans des traductions soit revues, soit révisées, soit complètement nouvelles dans certains cas, et avec un travail aussi sur les couvertures, dont je vais peut-être parler un petit peu, parce que, effectivement, Philippe Cadic est connu pour être un auteur de science-fiction, mais son propos dépasse très très largement le cadre de la science-fiction, c'est-à-dire qu'il pose des questions et des thèmes qui concernent tout un chacun. Donc nous, notre idée, c'était justement de ne pas le ghettoiser, de le sortir du carcan de la science-fiction, sans non plus oublier que c'en est, mais justement en pouvant proposer une autre vision au grand public, et ça à travers des couvertures beaucoup plus modernes, beaucoup plus... Voilà, pour rentrer dans le détail du plan de publication, il y a un certain nombre de romans de science-fiction dont les traductions ont été révisées qui paraîtront au sein de compilations, d'intégrales, publiées par ordre chronologique. Donc le premier volume est sorti là en mars et couvre la période 1953-1959. Il y a 6 romans dedans. Il y a une seconde intégrale qui sortira en septembre et qui couvrira la période 1960-1963. Il y a également tous ces romans de littérature générale qui vont reparaître, alors cette fois directement en poche, toujours avec des traductions revues, dans la collection de littérature générale chez J'ai lu. Et puis, il y a un certain nombre de chefs-d'œuvre qu'on a voulu sortir de ce schéma et qui, eux, vont bénéficier de traductions toutes nouvelles et qui vont reparaître en mars au sein de la collection Nouveau Millénaire. Il y aura donc Le Maître du Haut-Château, enfin, il y a eu déjà Le Maître du Haut-Château qui est paru en février. Il y aura en septembre Blade Runner et puis l'année prochaine Confession d'un barjo et Couler mes larmes, dit le policier, qui sont vraiment des romans fondamentaux dans son œuvre.
Alors,
voilà. Outre le travail sur ces traductions, il y a aussi un travail sur le paratexte. Toutes les intégrales dont je parlais, qui réunissent donc à chaque fois 6 romans de Philippe Cadic, sont préfacées par Gérard Klein, qui fait une espèce de long article divisé en 4 parties. Gérard Klein est le directeur de la collection Ailleurs et Demain, une des plus anciennes collections de science-fiction. Il a lui-même beaucoup côtoyé Philippe Cadic, il l'a bien connu, il l'a découvert en France, il l'a fait connaître au public, donc ça me semblait très important d'avoir son point de vue sur les nouvelles éditions aujourd'hui. Voilà, après sur Le Maître du Haut-Château, par exemple, avoir une personne de Laurent Cassis, qui est un dictien bien connu. Il y a eu également des chapitres inédits d'une suite inachevée que Philippe Cadic n'a jamais terminée. Voilà. Par contre, je voudrais m'arrêter un petit peu plus précisément sur vraiment 2 temps forts de ce programme, à savoir notamment un roman inédit, parce qu'il faut savoir que voilà, dans toute l'œuvre de Philippe Cadic, qui a pourtant été plutôt bien publié dans le passé, il restait un roman inédit qui n'a jamais vu le jour en France, et qui est un roman de littérature générale. En fait, c'est son premier roman, c'est un roman de jeunesse qu'il a écrit alors qu'il était encore tout jeune, il était en 48-49, et qui est une espèce de pièce manquante à l'édifice de Philippe Cadic, parce que c'est là qu'il commence à poser toutes les pistes qu'il développera tout au long de son œuvre. C'est-à-dire que, par exemple, c'est là qu'on va assister pour la première fois à la typologie de personnages qu'il réutilisera par ailleurs dans plusieurs romans et qui a été parfaitement décrite par Kim Stanley Robinson dans son essai « Les romans de Philippe Cadic ». On y assiste aussi au thème de l'envahisseur, occupant, qui prend la forme de l'opposition entre les cultures orientales et occidentales qu'on va très largement retrouver dans le Maître du Haut-Château. Il y a les boucles temporelles qui là sont sous forme de flashbacks qui nous permettent de voyager dans le passé, dans le présent, dans le futur de l'histoire. C'est pas de la science-fiction, mais on est déjà justement dans une structure narrative qui la rappelle. Et puis surtout, il y a cette mise en abîme de l'écrivain à travers le personnage de Carl Fitter, qui est le double littéraire en fait de Philip K. Dick, du jeune Philip K. Dick, qui est un jeune homme un petit peu naïf dans les relations sociales, dans les relations amoureuses, notamment avec le personnage féminin. Mais qui par ailleurs est quelqu'un qui réfléchit beaucoup et qui tient non pas un journal mais une espèce de somme de ses réflexions philosophiques et métaphysiques comme Dick le fera tout au long de sa vie et surtout à partir de 1974. Pourquoi 1974? Parce que c'est une date très importante, c'est une date où Philip K. Dick va vivre une espèce d'expérience mystique, presque théophanique, où il va recevoir la visite d'une entité extraterrestre au sens premier du terme, c'est-à-dire une entité qui n'appartient pas à notre réalité consensuelle, sous forme de voix, de vision. Et en fait, Dick va voir la Rome des premiers chrétiens se superposer à la Californie. Et de là, il va formuler un très grand nombre d'hypothèses sur la nature du temps, de la réalité, qui vont former ce qu'on a appelé par la suite son exégèse, et que nous allons publier donc en 2013. Qu'est-ce que c'est que cette exégèse? C'est un de testament littéraire laissé en friche jusqu'à maintenant, parce que c'est un travail colossal. C'est-à-dire qu'on a retrouvé après sa mort environ 8000 pages de ses notes, manuscrites évidemment, et personne jusqu'à maintenant, jusqu'à récemment en tout cas, ne s'était attaqué justement au travail faramineux qui consiste à trier, à noter, commenter et en donner une version à peu près intelligible et rationnelle. C'est ce qui s'est passé donc il y a maintenant un ou deux ans. Jonathan Lethem, romancier américain, peu, pas encore très célèbre en France, mais très célèbre outre-Atlantique, qui est un dickien reconnu, a fait ce travail. Il a réduit cet ensemble de 8000 pages à peu près 800, avec évidemment tout un travail critique dessus. Et ça, donc cet opus sera publié donc, chez J'ai lu. Alors, je ne sais pas exactement à quelle période, parce que le travail de traduction qui est là-dessus est lui aussi colossal. C'est-à-dire que c'est Hélène Collon, traductrice, la traductrice numéro 1 de Philip K. Dick en France, qui s'attelle à ce travail. Mais évidemment, même si elle connaît extrêmement bien le sujet, chaque ligne demande un nombre de recherches énorme. Donc évidemment, je ne peux pas encore vous dire si ça sortira en 2013 ou en 2014. Voilà.
Alors, un programme de publication très très ambitieux, et cette ambition de faire rentrer Philip K. Dick dans le rayon littérature générale, et notamment ce dont vous avez parlé, le travail sur les couvertures. Quand on voit le Maître du Haut-Château, la couverture au nouveau millénaire, déjà c'est en grand format, c'est pas en poche, donc on est dans un prix grand format, 18 euros, et on a une couverture très très classique là. Du coup, pareil pour roman 1953-1959 paru également au nouveau millénaire, une couverture très très classique. J'ai encore entre les mains Sur le territoire de Milton Lumkey, là on est en poche directement chez J'ai lu. On efface toutes les traces de possibilités de science-fiction, ou de ce qu'on voit en tout cas des couvertures de livres de science-fiction en librairie. C'est très efficace. Hein.
Alors justement, l'idée effectivement, c'est assez ambivalent, parce que c'est à la fois de ne pas nier l'appartenance à la science-fiction. Il ne servirait à personne l'idée de dire que Philip K. Dick n'est pas un auteur de science-fiction. Cependant, comme je disais, effectivement, l'universalité de ses thèmes fait qu'il peut être lu par vraiment tout le monde. Et l'idée, c'est vraiment d'ouvrir un large public. Les États-Unis sont en train, quelque part, depuis quelques années, de redécouvrir l'œuvre de Philip K. Dick, justement par ce biais-là. C'est-à-dire que au début, de son vivant, il était assez peu reconnu aux États-Unis. Il était en tout cas confiné au milieu de la SF, et c'est véritablement la France qui l'a fait émerger dans les milieux intellectuels, parce que justement on a découvert que ses idées étaient assez vertigineuses. Aujourd'hui, c'est un petit peu l'inverse qui est en train de se passer. Il y a une espèce de déshérence du marché français et les États-Unis qui, eux, redécouvrent Philip K. Dick et essayent d'en faire justement un auteur de leur patrimoine littéraire général et pas seulement de leur patrimoine de science-fiction. Voilà. On a pu assister à ce type de reconversion avec des auteurs comme Ballard, par exemple, qui longtemps ont été confinés dans la science-fiction et puis qui aujourd'hui ont explosé comme étant des auteurs du patrimoine général. Voilà. Ce travail sur les couvertures qui à la fois rappellent, qui vont plus insister sur les thèmes et les obsessions de Philip K. Dick, notamment je pense à cet œil qui est répété ad nauseam sur la couverture de la première compilation, davantage que sur cette science-fiction. C'est-à-dire que, voilà, on ne va pas mettre des vaisseaux spatiaux, on ne va pas mettre des petits bonshommes verts, même si parfois il peut y avoir des vaisseaux spatiaux chez Philip K. Dick, il ne faut pas les dire non plus.
Alors, parlons des traductions, des nouvelles traductions. Le Maître du Haut-Château, c'est une nouvelle traduction de Michel Charrier. Il y aura en nouvelle traduction Blade Runner,
tout à fait,
en nouvelle traduction, et puis autre grand roman, Couler mes larmes, dit le policier, également en nouvelle traduction. Pourquoi ces nouvelles traduction, qu'est-ce qu'elles apportent? Les anciennes étaient vraiment passées. Quand, si on compare ancienne traduction, nouvelle traduction, c'est quoi la différence?
Déjà, ça va nous permettre de lutter contre une idée reçue qui est complètement fausse. On entend souvent dire que Philip K. Dick n'est pas un styliste, que son écriture est plate, voire qu'il écrit mal. Ça, c'est totalement faux. C'est-à-dire que quand on décortique un petit peu les textes en version originale, on se rend compte qu'il fait preuve d'une économie de mots et d'expressions qui est toute tournée vers l'efficacité narrative, notamment un petit peu à l'instar des écrivains reporters qu'il admire et qu'il prend pour modèle. D'ailleurs, il y a un petit test qui est très simple à faire, il suffit de comparer le calibrage des textes en VO et des textes en VF, et on sait que les traductions ont pris 15, 20, voire 30% de textes en plus, et c'est énorme. Bon, certes, le français est une langue un petit peu plus verbeuse que l'anglais, mais à ce niveau-là, c'est pas seulement ça. Donc la révision des traductions d'origine, là je parle pour l'instant des textes qui ne font pas encore l'objet d'une traduction, mais d'une révision, a consisté à se rapprocher le plus possible justement de cette économie, de cette sécheresse et de sa précision langagière. Et surtout, évidemment, d'enlever certains contresens et faux sens qui malheureusement émaillent ces romans. Après, pour les retraductions totales des chefs-d'œuvre que vous avez cités, ça va nous permettre, dans certains cas, de redécouvrir l'œuvre et de voir qu'elle n'était pas du tout comme ce qu'on croyait qu'elle était. Il y a des malentendus. Vous parliez du Maître du Haut-Château, justement. Le Maître du Haut-Château avait été traduit selon son axe uchronique. Je rappelle rapidement ce qu'est une uchronie. Une uchronie, c'est un récit qui se passe dans le présent ou dans le passé, mais en tout cas qui diverge de notre histoire par un point précis de divergence. Dans le Maître du Haut-Château, le point de divergence, c'est que les forces de l'Axe, en 1948, ont gagné la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, l'Allemagne nazie et le Japon se sont partagés le monde, et notamment les États-Unis. Une fois que vous avez dit ça, vous avez à peu près épuisé tout ce qu'il y a à dire sur l'aspect uchronique du Maître du Haut-Château. Alors qu'en fait, il y a toute une dimension philosophique, toute l'interpénétration des cultures américaines et orientales à travers l'usage du yiking, le yiking chinoise. Il y a toute la notion d'historicité qui est primordiale, il y a le dédoublement, voire le détriplement de la réalité. Et la fiction passait quelque peu à côté parce qu'on sentait que le traducteur n'avait pas compris que c'était le propos du livre. Donc là, ça nous permet, la traduction de Michel Charrier, qui est impeccable, de pas passer à côté de ça. Pareil pour Blade Runner. Blade Runner, c'est un roman qu'on lit comme un polar. Bon, alors, certes, le film de Ridley Scott est une espèce de polar futuriste, mais le livre original l'est beaucoup moins. Et la personne qui a fait la première traduction de Blade Runner, était lui-même traducteur à la série noire. Donc effectivement, il a calqué un langage, il a calqué des expressions qui sont propres au polar des années 70-80, comme on peut le voir à la série noire. Quand on revient au texte original, on se rend compte que, évidemment, il y a cette dimension, parce qu'il s'agit d'un chasseur de primes qui doit retrouver des tués, mais ce n'est pas l'essentiel. C'est-à-dire que, encore une fois, si on se concentre là-dessus, on passe à côté de tas de choses. Donc c'est là vraiment l'objet de ces nouvelles traductions. qui sont, je le précise, faites à chaque fois par des gens qui sont, enfin, par des traducteurs qui sont eux-mêmes spécialistes de l'œuvre de Philip K. Dick. Je parlais tout à l'heure de qui a traduit par ailleurs quasiment toutes les nouvelles de Dick, mais aussi Gilles Goulet, mais aussi Sébastien Guillot, qui par ailleurs sont beaucoup intervenus sur les textes.
Pourquoi Blade Runner, vous gardez le titre du film ? Pourquoi vous ne l'avez pas traduit en français ?
C'est un vaste débat, effectivement, sur lequel on n'a pas encore tout à fait tranché. Je pense que le titre original, à savoir « Les androïdes restent-ils de moutons électriques », on le réutilisera en sous-titre pour que ça apparaisse quand même sur la couverture. Pourquoi est-ce qu'on a gardé Blade Runner ? Parce que, bon, je ne vais pas vous le cacher, c'est aussi un petit peu pour des raisons commerciales, à savoir que l'œuvre est connue sous ce nom. Elle a été immortalisée par le film de Ridley Scott. Voilà. Donc, comme je vous le disais, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui connaissent Philip K. Dick par ses films et pas par ses livres. Et si nous, notre ambition, c'est justement de faire découvrir au plus grand nombre, je pense qu'il ne faut pas qu'on se prive non plus de cette génialité avec le cinéma.
Ubik sera-t-il retraduit ? S'il n'est pas retraduit, c'est parce qu'il n'avait pas besoin d'une nouvelle traduction ?
Ah, là, vous touchez une corde sensible, Ubik étant un de mes romans préférés de Philip K. Dick. Mais, alors, comme je le disais, il y a quelques romans, enfin, tous les romans de Philip K. Dick n'étaient pas complètement abandonnés. Certains font depuis toujours l'objet d'une publication suivie. C'est le cas de Ubik, notamment, qui est publié aux éditions 18. Et malheureusement, on n'a pas pu récupérer ce roman. Maintenant, très honnêtement, je pense qu'il aurait besoin d'une retraduction, mais malheureusement, je ne peux pas intervenir dessus.
Tous les romans de Philip K. Dick ne vont donc pas être republiés là en 2012-2013. Comment s'est fait le choix ?
Alors, il y a des... Comment dire ? Il y a des contingences, on va dire, d'ordre pratique, à savoir que on a un problème de publication chez J'ai lu, on peut pas non plus inclure 38 romans, ça a été très compliqué dans ce programme de publication. Voilà. En fait, ce qui est à l'origine de ce vaste problème de republication, c'est aussi que les héritiers de Philip K. Dick ont récemment changé d'agent, qui a un petit peu tout remis sur la table en France, qui a voulu effectivement que un éditeur récupère la quasi-totalité des romans pour en faire une nouvelle publication. Voilà. Après, évidemment, ça aurait été idiot certains romans font l'objet d'une publication suivie, comme Ubik, comme la trilogie divine chez De Noël, qui a d'ailleurs été récemment retraduite. Donc voilà, donc nous, on a plutôt vocation à remettre au goût du jour et surtout rendre disponibles les ouvrages qui ne l'étaient plus, et pas évidemment à les chasser sur le terrain de nos petits camarades qui font aussi très bien leur boulot.
Merci beaucoup Thibaut Eliroff d'avoir répondu à mes questions sur Philip K. Dick. Merci, bonne soirée à vous.
Je vous en prie, bonne soirée, au revoir.